On retrouve le journal avec Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
Viking, au large de la Corse, le navire humanitaire poursuit sa route vers le nord. 3 demandes d'évacuation sanitaire ont été émises auprès du CrossMed. Elles ont été acceptées. La CGT appelle à une nouvelle mobilisation aujourd'hui pour la revalorisation des salaires. Mobilisation relativement peu suivie pour l'instant, malgré des actions à Bastia et Ajaccio ce matin. Ce jeudi, c'est aussi la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Grande cause pour le ministère d'Éducation nationale. Comment s'en sort un cinéma en milieu rural en période post-Covid? Réponse avec le Galaxy Alledge dans la Nouvelle Écho. Et enfin, dans Marie Ladine, nous irons à Beyrouth tout le Diovis Abiregina est repris en langue syriaque. L'Ocean Viking, donc, navigue toujours au large de la Corse. Il se trouve actuellement en mer, peu ou prou, au niveau de la commune d'Alistro. Le navire qui a d'ailleurs formulé aujourd'hui une demande auprès du CrossMed, une demande d'évacuation sanitaire pour au moins 3 des réfugiés à bord qui se trouvent dans un état grave, un état qui nécessite pour leur taux d'une hospitalisation.
Oui, Alexandre, l'Ocean Viking croise toujours au large d'Alistro, mais tous les regards sont tournés vers le ciel. L'hélicoptère de l'armée Puma doit prendre en charge 4 de ses passagers pour une évacuation sanitaire. Il s'agit de 3 réfugiés et d'un accompagnant, a précisé la préfecture maritime qui coordonne l'opération. L'un des 3 réfugiés ne réagit plus aux soins prodigués à bord. Les 2 autres ne se remettent pas des blessures qu'ils ont subies en Libye. Ce caractère d'urgence médicale a conduit le capitaine à lancer un appel à l'aide ce matin. Le Puma a donc décollé peu après 11h de la base de Solanzar et se trouve toujours en mer. Il est attendu à l'hôpital de Bastia en milieu de journée. La destination finale de l'Ocean Viking n'est toujours pas connue de manière officielle. Après le refus de l'Italie, des tractations ont toujours lieu au niveau européen. L'association SOS Méditerranée, on le sait, a fait appel à la France. Le port militaire de Toulon est pressenti par les autorités pour accueillir le bateau et ses 234 migrants.
Paul Ortoli, merci beaucoup. On voit donc à la prise en charge de 4 personnes, dont 3 réfugiés à l'hôpital de Bastia. En attendant, pour les autres, rien de neuf a priori. Comme on vient de l'entendre, la Commission européenne appelle à leur débarquement immédiat, même si l'exécutif de Corse et le maire de Marseille s'étaient dit prêts dès hier à accueillir le navire. Pour l'heure, en tout cas, l'ONG SOS Méditerranée, qui affrète ce bateau, n'a reçu aucune réponse officielle des autorités.
On a beau entendre ces gestes de solidarité, pour l'instant, tant qu'on n'a pas reçu de déclaration officielle qui nous est transmise par les autorités maritimes compétentes, on ne peut pas partir du principe que nous avons un lieu sûr qui nous a été accordé. Nous attendons la réponse officielle des autorités. Les dernières 24 heures, elles ont été compliquées. On a des personnes qui sont en détresse émotionnelle. Certaines envisagent même de sauter par-dessus bord. Les personnes dorment par terre. Elles mangent une nourriture d'urgence. On voit leur état de santé s'empirer. On est extrêmement fâchés de la situation et surtout, on a honte de devoir se présenter au quotidien face à ces personnes sans pouvoir leur apporter la réponse qu'ils attendent tous. Et la réponse qu'ils attendent, en fait, c'est de pouvoir enfin atteindre un lieu sûr. On espère, en tout cas.
Morgan Lescaut de l'ONG SOS Méditerranée, dès hier en tout cas, et comme Gilles Siméon et Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée, avait exprimé publiquement cette possibilité pour le navire d'accoster en Corse, le navire qui transporte toujours 234 migrants réfugiés errent en Méditerranée dans une situation plus que précaire. En engageant l'Assemblée de Corse, sa présidente se dit donc conforme aux valeurs de solidarité, mais également, pour elle, c'est le principe de solidarité européenne, je vais y arriver, qui va jouer.
Moi, je considère que lorsqu'il y a des gens en détresse, on a un devoir, c'est celui de les aider. En l'occurrence, l'Ocean Viking a demandé à pouvoir accoster dans un port sûr, hein, c'est la définition. Comme il me semble que tout le monde est bien frileux pour accueillir ce navire, la moindre des choses, conformément à nos valeurs de solidarité, au moins qu'ils puissent trouver un port d'attache, au moins que le bateau puisse accoster quelque part et que des équipes médicales puissent monter à bord. C'est effectivement ensuite qu'est-ce qui se passe ? La Corse ne bénéficie pas de structures d'accueil spécifiques pour des migrants de ce type. Moi, j'ai souvent des discussions à l'échelle européenne, au comité des régions et encore récemment concernant les migrants ukrainiens. Il a fallu répartir à un moment donné la difficulté ou au moins accompagner les pays receveurs, premiers receveurs. Ça paraît évident, il y a une solidarité européenne qui doit jouer. On ne peut pas demander à l'Italie de tout faire ou à la Grèce.
Et puis avec 4 autres associations, aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme était reçue en préfecture à Ajaccio pour évoquer le cas donc de ce navire humanitaire. Des associations, 9 associations en tout, qui voulaient d'abord porter un message d'humanité. Écoutez Elsa Renaud, la présidente de la LDH en Corse.
Nous sommes allés porter un message d'humanité, de fraternité pour l'accueil de ces personnes rescapées à bord de l'océan Viking. Il y a d'abord une situation d'urgence humanitaire. Il faut tout simplement porter secours à ces personnes en détresse. Et au-delà, c'est la question de l'accueil des réfugiés qui se pose, puisqu'il est temps d'apporter une réponse à cette question de la crise de l'accueil en Europe, en France et bien évidemment la Corse est concernée. Nous avons également dit que ceux qui nous parleraient de grands remplacements ou d'appels d'air sont tout simplement dans un déni d'humanité. À ce titre, alerter sur le déferlement des propos racistes, des propos haineux que l'on retrouve ces jours-ci sur les réseaux sociaux et sur des réseaux sociaux de médias.
12h06 sur RCFM. Nouvelle journée d'action, de grève, de mobilisation interprofessionnelle ce jeudi à l'appel de la CGT. Les mots d'ordre sont identiques à ceux des trois précédentes journées. Revalorisation du SMIC, revalorisation du point d'indice des fonctionnaires ou encore l'indexation des salaires et des retraites sur l'inflation. Bref, des manifestations et des rassemblements pour le pouvoir d'achat. C'était le cas ce matin à Bastia. Pierre-Louis Sardi.
Et pour cette quatrième journée de mobilisation nationale, la CGT était le seul syndicat à appeler à descendre dans la rue. L'appel a donc été très diversement suivi dans les différentes administrations et encore moins dans le privé. Cette fois encore pourtant, la CGT réclame une hausse des salaires et l'abandon de la réforme des retraites. L'augmentation des salaires plutôt que la distribution de primes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des retraites. Mais le message a visiblement du mal à passer chez les salariés. Peu d'entre eux sont prêts à perdre encore une journée de salaire, comme le soulignent les autres syndicats. Seule la FSU avait appelé à rejoindre les cortèges de manifestants partout en France. Nous n'en avons pas aperçu ce matin, du moins à Bastia, devant la préfecture de Haute-Corse. Il faut rester mobilisé, martèle pourtant Charles Casabianca, le secrétaire départemental de la CGT de Haute-Corse.
Depuis septembre, des événements se sont passés quand même. Le 49-3 utilisé 4 fois. Une prévision de remise en cause des retraites. Donc nous pensons aujourd'hui, avec la crise économique que nous connaissons, enfin la crise pas pour tout le monde, parce que certains se répartissent 52 milliards de dividendes, pendant que d'autres ne peuvent pas vivre de leur travail. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes là encore une nouvelle fois. C'est le quatrième jeudi, la quatrième manif depuis le mois de septembre. Et nous pensons qu'il faut cesser cette politique de casse sociale.
Il n'y a que la CGT aujourd'hui. Les autres syndicats n'ont pas vraiment appelé. La FSU appelle à rejoindre les cortèges, mais sans mobilisation néanmoins. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah écoutez, moi je ne peux pas me prononcer pour les autres syndicats. Moi je pense que tous les acquis que nous avons eus dans l'histoire sociale française, elle s'est faite dans la rue. C'est jamais le patronat qui nous a donné quoi que ce soit. On a toujours arraché dans la rue. Et nous pensons que notre place en tant que syndicaliste, elle est dans la rue auprès des gens qui souffrent. Nous sommes là pour dénoncer des situations, la cherté de la vie, les monopoles qui se font dans notre région, hein, au détriment des populations et tout ça avec l'accord de plusieurs politiques. Les autres syndicats ont une autre stratégie, c'est la leur. Nous pensons que nous devons être dans la rue, dénoncer, être plus nombreux dans la rue pour pouvoir accéder à nos revendications.
Et vers 11h ce matin, une délégation a été reçue par le secrétaire général de la préfecture qui a pris acte de leurs revendications. Les manifestants se sont ensuite dispersés dans le calme.
Les conséquences de ce mouvement en Corse aujourd'hui, notamment, il y a plusieurs cantines scolaires qui n'assurent pas les repas aujourd'hui dans les villes de Bastia ou Ajaccio. Ajaccio, d'ailleurs, où la CGT a décidé très tôt ce matin de bloquer le dépôt pétrolier du Vazio à Clémence Gourdon-Negrini, parce que la CGT de Corse du Sud a voulu ajouter aux revendications salariales nationales un message plus local.
Avec le blocage dès 5h30 du matin du dépôt pétrolier par une quinzaine de membres de la CGT Corse du Sud. Mais selon son secrétaire général Patrick Bossard, le dialogue est à peine entamé qu'il est déjà rompu.
On constate quand même qu'il y avait eu des discussions avec la préfecture et nous étions engagés dans le cadre d'une discussion avec les services présents sur le site que nous libérions en cours de matinée. Et le préfet n'a pas de parole puisqu'il a demandé l'usage de la force publique pour débloquer le site. Donc on voit bien que le gouvernement, dans toute sa sa configuration et dans sa représentation dans le territoire sert bien les intérêts du capital, mais pas des populations.
L'action symbolique du syndicat ajoute donc une revendication à celle réclamée partout ailleurs, fixée par arrêté préfectoral le prix des carburants sur l'île. Patricia Curcio, la secrétaire départementale de la CGT.
Comme dans tous les territoires ultramarins, pour qu'il y ait un prix qui soit à la baisse et non pas à la hausse, puisque là, bientôt, dans une semaine, les aides de l'État vont être diminuées et les aides de Total également vont être supprimées, donc ce qui va faire une flambée du prix du carburant qui aura une conséquence importante sur la population locale.
Mais l'action est peu comprise par la quinzaine de chauffeurs bloqués devant le dépôt. Hors micro, ils expliquent que le blocage n'aura pour conséquence que de leur rallonger la journée. Normalement, ils commencent à remplir leur citerne dès 6h, puis font entre 3 et 5 rotations jusqu'à 15h. Là, il faudra prolonger jusqu'à 17h30 pour remplir les stations essence. C'est 4 heures de perdu et plus de risques qu'on va prendre sur les routes dans la journée pour rattraper ce retard, nous explique l'un d'entre eux, dépité. Ça, Patricia Curcio le comprend, mais elle prône le combat de tous, pour tous.
Ce sont des salariés comme nous qui vont payer aussi le prix fort comme nous. Je peux comprendre effectivement que ça fasse un décalage. Après, bon, ben, le patron devrait leur payer des heures supplémentaires.
La prochaine date n'est pas encore actée, mais la CGT nationale a déjà prévenu. D'autres jeudis de la colère sont déjà prévus.
Et du côté de FO, c'est une journée de grève inutile. L'intersyndicale n'est pas mise en cause, ni le fond des revendications d'ailleurs, qui met tout le monde d'accord, mais c'est la forme qui bloque. Pas d'appel à la mobilisation, donc, dans les rangs de force ouvrière, en tout cas pas sous cette forme-là. Explication de Marcel Santini, le secrétaire général du syndicat en Corse du Sud.
Nous sommes hostiles à ce qu'on appelle, dans notre jargon, les journées saute-moutons. Ce sont des journées de grève d'un jour, à l'issue desquelles, selon nous, les salariés s'épuisent et finissent par se démotiver, et nous avons la perspective des retraites et nous préférons garder toutes nos forces intactes. Surtout avec le thème qui est mis en avant, à savoir l'augmentation des salaires. Les salaires, c'est vrai que généralement en entreprise, je pense que les salariés des raffineries et des centrales nucléaires en France ont montré la voie. Grève reconductible et reconduite pendant plusieurs semaines. Et d'ailleurs, ils ont obtenu une augmentation de 5%, plus de 2 autres % de hausse individuelle. Enfin, ils ont montré la voie et la voie pour nous, c'est celle-là. La grève reconductible est reconduite jusqu'à satisfaction des revendications. Et encore, on n'a encore rien vu. On annonce des chiffres d'inflation pour la rentrée de janvier qui vont largement dépasser les 7 ou 8% actuels. Et donc, c'est pas le moment de disperser et de gaspiller toutes nos forces.
À midi, passé d'un peu plus de 12 minutes sur RCFM. À 23 ans, il incarne la relève à gauche en Corse. Candidat INSEM et AMANCA aux dernières législatives à Porto Vecchio, Dylan Champeau était hier soir l'invité de Contraste, l'émission mensuelle de France 3 Corse Via Stella en partenariat avec RCFM et Corse Matin. Étudiant en droit à Nice, futur avocat, il baigne depuis son plus jeune âge dans le militantisme de gauche et non nationaliste, comme la plupart des jeunes dans l'île, y compris les jeunes de gauche. Il explique pourquoi.
Je pense que beaucoup de nationalistes de gauche aujourd'hui se rendent compte un petit peu de la supercherie et en ont ras-le-bol de ce « en même temps » de Gilles Zimmer. Aujourd'hui, ça suffit pas d'être nationaliste. Ce qui est intéressant, c'est de savoir sur le projet de société où l'on se situe. Est-ce qu'on est dans la continuité d'un système libéral ou est-ce qu'on est dans une rupture avec un système? Voyez-vous une évolution entre les dernières mandatures et celle de Gilles Zimmer? Au plan national, y a-t-il une réelle différence entre les nationalistes et la politique menée par le gouvernement? C'est des questions qu'on est en droit de se poser et à laquelle je pense qu'un simple constat nous permet de voir qu'il n'y a pas de rupture. C'est là que nous avons un rôle à jouer à gauche, déjà d'être toujours dans la rupture avec un système, et deuxièmement, de reconquérir un électorat qui peut-être a été séduit par d'autres et qui se rend bien compte aujourd'hui que c'était peut-être une erreur ou qu'en tout cas, les choses n'ont pas évolué favorablement. À nous d'avoir des propositions et d'être une force de contre-proposition surtout.
Un contraste avec Dylan Champeau, une émission à réécouter en intégralité sur RCFM ce soir à partir de 19h. Quand l'école devient un lieu de douleur, c'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Près d'un enfant sur 10 est harcelé chaque année à l'école en France. Nombreux sont celles et ceux qui en ont été victimes ou qui ont été témoins comme ces lycéens. On les écoute.
Au collège, il y avait un petit groupe qui me harcelait, ça a duré une année. Et moi, je me sentais, c'est pas que je m'en fichais, ça me touchait quand même. Mais à cette époque-là, j'étais quand même assez renfermé sur moi, donc du coup, je m'enfermais dans une bulle. Après, j'en ai parlé à mes parents, puis on allait voir la direction.
J'ai un ami qui était isolé régulièrement par les autres camarades de classe. On peut se dire que c'est que de la rigolade entre enfants qui ne savent pas encore vraiment comment agir les uns avec les autres. Mais d'un autre côté, ça se voit quand un enfant est malheureux entouré par un autre groupe.
C'était au collège, un petit garçon dans ma classe qui se faisait harceler constamment à cause de son physique. Son corps, sa tête, tout ce qui revenait pas en fait chez les harceleurs. Tout le temps, il se mettait en ronde autour de lui, il lui disait des trucs. Ça l'oppressait constamment en fait. Et personne n'a rien fait.
Et un programme baptisé Phare vient d'être généralisé à toutes les écoles, tous les collèges depuis la rentrée de septembre. Il vise à prévenir les moqueries, les insultes, les violences physiques entre élèves. Parmi les dispositifs mis en place, des ambassadeurs contre le harcèlement. Il s'agit d'élèves volontaires formés qui vont identifier des situations problématiques et parler aux victimes pour les soutenir. Le ministre de la Santé déclenche un plan blanc national pour coordonner les soins et faire face à une épidémie de bronchiolite d'une ampleur inédite depuis plus de 10 ans. La semaine dernière, ce sont près de 7000 enfants de moins de 2 ans qui ont été pris en charge aux urgences dans le pays. Une situation exceptionnelle qui nécessite donc des moyens supplémentaires. Anne-Laure Danier.
Pour l'instant, il n'y a qu'une dizaine d'hôpitaux qui ont déclenché le plan blanc, en Gironde notamment, mais aussi à Rouen, au Havre, à Limoges et Laval. Ça permet à ces hôpitaux, débordés par l'afflux de bébés atteints de bronchiolite, de faire revenir du personnel de congé, de changer les horaires ou le lieu de travail des soignants, mais aussi de réorganiser les services pour faire plus de place à la pédiatrie. Pour coordonner ces plans blancs, le ministre de la Santé a déclenché le dispositif ORSAN. Ça veut dire que chaque établissement pourra décider des mesures à prendre sous l'autorité des agences régionales de santé qui sont à la manœuvre, notamment pour gérer les transferts de bébés. 38 ont déjà été évacués de l'Île-de-France vers d'autres régions. Le ministère va aussi faire appel aux libéraux, médecins, pédiatres et kinés. Ils sont appelés à venir prêter main forte à l'hôpital.
Midi 16 et sans transition aucune, un centre de soins pour animaux sauvages en Corse. Depuis le mois de juin dernier, l'association Petiros, installée sur la commune d'Olette et dans le Nebbio, elle dispose des agréments nécessaires pour recueillir la faune sauvage en détresse, pour soigner les animaux puis les relâcher dans la nature. Adossée au Corsicaso et soutenue par l'Office de l'Environnement, la structure associative fait donc office d'hôpital pour les animaux, comme on le découvre dans ce reportage signé Christophe Duigelli.
Niché au cœur du Nebbio, à proximité du Corsicaso, le centre de soins pour animaux sauvages répondait avant tout à un besoin, explique Pascal Volgemuth, le directeur du zoo.
On a été sollicité par beaucoup de visiteurs et de découvreurs, de personnes qui faisaient des promenades en Corse, qui retrouvaient des animaux blessés et qui nous les emmenaient directement au zoo, pensant qu'un parc zoologique pouvait accueillir de la faune sauvage blessée, sauf qu'un parc zoologique n'est pas un centre de soins.
Depuis son ouverture en juin dernier, plus d'une centaine d'animaux ont déjà été apportés au centre de soins qui est géré par l'association Petiros, où Amandine Péricard en est la soigneuse.
On va retrouver des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens. On va avoir des hérissons qui sont empoisonnés, qui sont fait taper par une voiture, mais aussi du rapace comme le Milan Royal. On va accueillir des tortues comme la tortue d'Hermann.
La soigneuse conseille d'appeler l'association avant et d'emmener les animaux blessés dans une boîte en carton.
Quand l'animal arrive ici, déjà on commence par une auscultation. Par exemple, ça peut être juste l'animal a besoin de récupérer, de reprendre des forces, donc on va simplement le nourrir, l'accompagner avec des réhydratations sous-cutanées, tout ça. Ou bien ça va être des soins beaucoup plus longs, donc ça va être des fractures, donc avec un bandage, de la réhabilitation ovolière pour qu'il puisse se remuscler, de la manipulation en kiné.
Une question se pose, pourquoi soigner les animaux sauvages?
On va dire à 80% du temps, c'est dû à une activité humaine. Là, ça me semble normal de rattraper nos bêtises.
Le centre de soins se veut aussi un outil de sensibilisation.
Et on va plus loin, hein, toujours en compagnie d'Amandine Péricard, donc la soigneuse de ce centre de soins pour animaux sauvages. Elle est notre invitée de la rédaction et elle est toujours au micro de Christophe Duigelli.
Amandine Péricard, bonjour.
Bonjour.
Un centre de soins adossé au Corsicaso, à Olette, ça répondait à une demande?
Oui, il y avait une réelle demande de la part de l'ensemble des Corses, où en fait le Corsicaso, de base, récupérait énormément d'animaux parce que les gens leur amenaient, parce que malheureusement, il n'y avait pas de structure qui était en état d'accueillir l'ensemble de la faune sauvage en détresse, donc c'est-à-dire les reptiles, les amphibiens, les mammifères et les oiseaux.
Qu'est-ce qu'on ramène justement comme animaux dans ce centre de soins? Qu'est-ce qu'on vous a ramené depuis son ouverture au mois de juin?
Alors depuis son ouverture au mois de juin, on a pu accueillir une centaine d'animaux, ce qui est énorme pour une première ouverture. On a pu accueillir principalement donc des hérissons, on a pu accueillir des chauves-souris, on a pu accueillir du martinet, du milan royal, faucon cresserelle, du petit passereau, rouge-gorge, fauvette, mésange, un petit peu tout ça globalement, du hibou petit duc, etc. quoi.
Donc tout ça, ce sont des animaux qui sont retrouvés dans la nature par des particuliers lorsqu'ils se promènent ou lorsqu'ils tapent avec leur voiture. Quel type de blessures ils ont ?
Au niveau du type de problématique qu'on peut rencontrer, en fait, en période estivale et printanière, on a principalement des jeunes qui soit sont en sortie de nid et se font régulièrement attraper par les chats, donc subissent la prédation, ou bien les personnes les ramassent un petit peu à tort alors qu'il n'y aurait pas besoin de les récupérer, juste les mettre en sécurité. Il peut y avoir aussi des cas de choc avec des véhicules ou avec des vitres. Donc on retrouve des animaux blessés avec des fractures, notamment des oiseaux avec des fractures au niveau des ailes ou des pattes. On peut avoir aussi des animaux empoisonnés comme le hérisson, le milan royal. Globalement, voilà, c'est ce qu'on va le plus accueillir au niveau des causes d'accueil, en fait.
Le centre de soins accueille des animaux. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'ils arrivent ici ? Donc, il y a du matériel pour les soigner, on les garde un petit peu en observation. Comment ça se passe ?
Alors, lorsqu'un animal arrive au centre de soins, donc on va d'abord commencer par une auscultation avec du matériel médical. On va être aussi en collaboration avec des vétérinaires pour tout ce qui est radiographie et chirurgie. Donc, on va leur prodiguer les soins nécessaires, c'est-à-dire soins de plaies, apport de médicaments, la meilleure détention captivité possible pour éviter leur stress et pour éviter aussi de, quand on a des jeunes, de modifier leur comportement, parce qu'après, à l'état naturel, il faut qu'ils puissent être autonomes et capables de se débrouiller. Donc on essaye de se rapprocher au maximum au niveau de la captivité de leur milieu naturel. Et ensuite, une fois que l'animal est beaucoup mieux, se porte beaucoup mieux, on va passer par une phase de réhabilitation, que ça soit en enclos ou en volière, pour vérifier que l'animal est en capacité de se débrouiller seul au niveau alimentaire, mais aussi pour se déplacer, qu'il n'y ait pas de comportement modifié dû à la présence de l'homme, etc. Pour qu'à l'état naturel, voilà, il soit autonome, qui soit pas du tout imprégné, ça c'est quelque chose qui est très très important, sinon il se reconnaît pas en tant qu'individu de son espèce et il y aura pas de reproduction derrière, il sera pas capable de se débrouiller seul et du coup il se rapprochera de l'homme et malheureusement il aura d'autres problématiques derrière quoi.
Beaucoup de personnes ont des chats, des chiens, des poissons, toutes sortes d'animaux à la maison. On comprend de soigner les animaux domestiques. Pourquoi soigner la faune sauvage ?
Pourquoi sauver la faune sauvage ? Tout simplement d'un point de vue écologique. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on a entamé la 6e extinction de masse. L'homme a un énorme impact sur la faune sauvage en règle générale. Donc, on se doit, en tant qu'être humain, d'essayer de compenser là-dessus. Sachant que 80% des animaux qu'on accueille, c'est dû aux activités humaines. Donc, on essaye un petit peu de rattraper la chose. Parce qu'à l'heure actuelle, sur beaucoup d'espèces, par exemple le milan royal ou alors la tortue d'Hermann, malheureusement, chaque individu est important parce qu'ils sont soumis à des plans nationaux d'action. Donc toutes les populations sont surveillées. Il y a des plans de gestion de faits pour justement maîtriser et augmenter la population.
Vous êtes soigneur, vous recevez toutes sortes d'animaux insulaires. Vous êtes aux premières loges du changement climatique. Est-ce qu'on voit des animaux souffrant justement de ces changements climatiques, de ces chaleurs, de ces sécheresses ?
Oui, alors là, pour le coup, énormément. Rien que, par exemple, cet été, on a accueilli des martinets, énormément de jeunes martinets en fait, qui sautaient des toits, parce que sous les toits, nous on ressent une température entre 35 et 40 degrés, eux sous les toits ils ressentent une température qui va jusqu'à presque 60 degrés parfois. Il fait tellement chaud, leur seul moyen de survie c'est de sauter, de sortir de cette chaleur ambiante pour éviter justement de mourir de chaud. Donc on récupère des martinets en saison de sécheresse, qui sont très mal en point, déshydratés dû à la sécheresse, mais aussi sous-alimentés, qui sont très très maigres, parce que justement les parents sont obligés d'aller faire plusieurs kilomètres, vraiment énormément de temps de vol pour pouvoir récupérer la nourriture, pour pouvoir nourrir les petits. En règle générale, ils sont très vite carencés et sous-alimentés.
Pour vous, ce type de centre de soins pour animaux sauvages, ça devrait se multiplier à l'avenir quand on voit les conditions du climat ?
Oui, totalement, parce qu'en fait, un centre de soins, ça a aussi pour but de sensibiliser aussi la population sur la protection environnementale, sur la protection de la faune sauvage, sur ce qu'il ne faut pas faire aussi par rapport à la faune sauvage, parce que malheureusement, on essaye de toujours faire plein de choses, mais il y a plein de choses qui ne sont pas à faire pour avoir les bons gestes adaptés. Et il faudrait effectivement que ce type de structure augmente parce que c'est une réelle nécessité. Rien qu'en Corse, par exemple, à part le centre de soins de Corté qui accueille les rapaces, il n'y avait pas grand-chose qui était accessible. Donc c'était une grosse problématique, une grosse demande de la part de la population, mais aussi des vétérinaires qui, en règle générale, sont très très peu formés sur la faune sauvage et ne savent parfois pas quoi faire pour la réhabilitation, par exemple.
Amandine Péricard, je vous remercie.
Mais de rien, merci à vous.
On s'intéresse maintenant aux salles de cinéma qui, on le sait, ont du mal à se remettre de l'épidémie de Covid. On parle d'une baisse de fréquentation de plus de 30% en 2022. Alors dans ce contexte, comment s'en sort un cinéma comme le Galaxy à Lecce qui avait ouvert quelques mois seulement avant la crise sanitaire? Rémi Toscano, son propriétaire, est dans la Nouvelle Écho de RCFM, signé José Tafani.
Rémi Toscano, bonjour. Une baisse de fréquentation dans le cinéma français, on parle d'une grosse baisse de l'ordre de moins 20%. Vous le constatez, vous également ?
Oui, effectivement, oui, c'est vrai qu'on constate là sur cette année, sur le mois d'octobre par exemple, on est à moins 20%, peut-être un peu plus même sur le mois de septembre. Voilà, bon, c'est dû un peu au climat. L'an dernier, à cette période, on était sous la pluie. Nous, ici, c'était une journée presque record pour nous. Cette année, il fait super beau. Le cinéma c'est beaucoup plus calme. Après, voilà, c'est un petit peu aussi peut-être la conjoncture. Peut-être que les gens ont changé un peu de comportement. Bon, ça, c'est difficile à apprécier, mais voilà, on espère avec une fin d'année un peu meilleure, avec les grosses affiches, avec Avatar, avec Le Clan qui sort en début d'année 2023.
Vous ne parlez pas de la concurrence des plateformes. C'est pas pour vous, c'est pas vraiment une concurrence.
Sûrement que les gens, pendant le confinement, ils ont pris un peu ce pli-là, mais après, les contenus sont pas du tout la même qualité. L'expérience cinéma, elle sera toujours qu'au cinéma, quoi. Là, on n'aura jamais un écran ou un son comme on a ici dans nos salles. Le partage aussi de l'expérience avec le public, ça changera jamais. Après, il faut des gros films, il faut que les distributeurs jouent le jeu, continuent de nous sortir les films.
Vous l'avez ouvert juste avant la crise sanitaire, quelques mois avant la crise sanitaire. C'est une industrie difficile, une industrie culturelle. C'est compliqué de faire vivre une telle industrie.
Oui, dans l'ensemble, ça va quand même. Après, on a été beaucoup aidés pendant le confinement, heureusement, parce que bon, on a fermé quand même plus de 10 mois, donc ça n'a pas été évident. Après, ça reste toujours un petit peu délicat. On a les coûts matières qui augmentent comme tout le monde, hein, l'électricité, il y a tout qui augmente, donc on n'a pas touché les tarifs pour l'instant. Donc bon, on verra si on va être obligé d'ici quelques temps de le faire. Mais c'est vrai que ça reste assez tendu comme période. Voilà, on espère des jours meilleurs.
Un Tunisien, un Ukrainien, un Portugais ou Marocain, tous ont fait le choix de la nationalité française et l'ont officiellement obtenu lors d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. 36 personnes de 14 nationalités différentes ont donc récupéré les documents qui font d'eux des citoyens français. En moyenne, un peu plus d'une centaine d'étrangers la reçoivent chaque année en Haute-Corse. Fouad est d'origine marocaine, il est l'un de ces nouveaux récipiendaires.
Je vis en France depuis l'âge de 2 ans et demi, j'ai 45. Au fond de moi, j'étais français, mais bon, il fallait le prouver avec les documents officiels. Aujourd'hui, je suis heureux d'être un vrai français, je suis fier d'être français. C'est surtout pour moi, mon intégration. Je vis en Corse depuis 45 ans, enfin presque. Je suis venu tout bébé à la tétine à la bouche, comme on dit. Bon, moi, quand je suis arrivé à la majorité à l'âge de 18 ans, je ne sais pas pourquoi, c'était pour les papiers et tout ça. Bon, je ne voulais pas trop me compliquer, quoi. J'ai pris un titre de séjour, voilà. Et puis après, il y a un parcours, il y a plusieurs étapes. Il faut avoir un très bon langage, il faut une très bonne intégration, l'assimilation aussi. En fait, moi, sincèrement, je n'ai pas eu de difficultés. J'ai été vite intégré, j'avais des amis, des copains. En fait, je suis corse. Vu toutes les années que j'ai passées ici, je suis corse.
Le duo Vissalvi Regina a chanté en langue syriaque, un chant interprété par la Libanaise Pascal Ogeil, qui a déjà adapté plusieurs chansons corses. Cette fois-ci donc, le duo Vissalvi Regina allait en compagnie du groupe Lederno pour la première fois sur RCFM dans Marais Ladine, où on découvre cet enregistrement, d'ailleurs accompagné d'un clip vidéo. Depuis Beyrouth, Pascal Ogeil est avec Jérôme Souzini.
Et l'on retrouve pour parler décidément sur RCFM du Liban, Pascal Ogeil, bonjour.
Bonjour Jérôme.
On a parlé cette semaine de jumelage Biblos Bonifacio. Il y a eu en même temps le jumelage entre le parc naturel régional de Corse et la réserve du cèdre de Chouf, on en parlera prochainement. Mais là, vous faites un cadeau au Liban et à la Corse pour ce jumelage, l'enregistrement avec une adaptation de Dio Vissalvi Regina, vous et le groupe Lederno.
Offrir un cadeau de mariage, un cadeau de retour. Et je me suis dit, à mes yeux, la meilleure façon que je puisse vraiment faire plaisir à mes amis corses et à mes frères corses, de leur réinterpréter l'hymne national corse, tout en intégrant un couplet, que je considère le couplet ultime, en langue syriaque. La langue syriaque n'est que la dérivée de la langue araméenne, la langue parlée par le Christ.
Dio Vissalvi Regina, avec Lederno, avec un orchestre, avec des chœurs, assez somptueux.
La première étape a été enregistrée avec les instruments de musique orientaux au Liban. La deuxième étape, les d'autres instruments de cordes ont été enregistrés en Roumanie. Et la troisième étape, nous avons pu vraiment chanter en Corse, au studio, le fameux studio La Source, avec le groupe Les Dermes. Oh.
Tout ça s'est accompagné d'une vidéo, comme d'habitude, celle-ci est tournée à Bonifacio.
La vidéo s'est déroulée à Bonifacio, juste pour faire un clin d'œil au village qui a été réalisé entre Biblos et Bonifacio.
On fera ce plaisir à nos auditeurs d'entendre Dio Risalve Regina dans votre interprétation, dans la langue du Christ également. Merci beaucoup, Pascal Ogel.
Je vous remercie infiniment, Jérôme. Merci encore une fois.
Et à 12h29, la principale information de ce journal, c'est l'Ocean Viking, toujours au large de la Corse. Le navire humanitaire bloqué en mer depuis 20 jours avec 234 personnes à bord prend la direction de Toulon où il arrivera demain matin. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a quelques instants. Le navire a par ailleurs demandé au Crossmed de pouvoir évacuer 4 personnes qui se trouvent à son bord, 3 réfugiés et un accompagnant, dans un état sanitaire qui nécessite des hospitalisations. L'hôpital de Bastia, donc, qui s'apprête à les accueillir. Et puis enfin, la CGT a un nouvel appel à la grève aujourd'hui. Augmentation du SMIC, du point d'indice, indexation des salaires sur l'inflation. Les revendications sont les mêmes qu'au précédent appel à la mobilisation.